Okay, so our next speaker, notre prochaine intervenante, c'est Fanny Georges, elle est maître de conférence à l'Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3. Et ce thème de recherche, parmi ces thèmes de recherche, il y a la communication numérique, et en particulier les questions qui concernent l'identité numérique et l'éternité numérique, qui va être le sujet de son intervention d'aujourd'hui. Et en plus, elle a fait aussi un travail de recherche très intéressant sur les jeux vidéo et sur l'interaction et la sémiotique des jeux vidéo. Donc, merci Fanny Georges pour être là. Maintenant, on va charger le PowerPoint et on peut commencer.
Donc, je vais vous présenter une partie... je vais vous présenter donc les cadres du projet Digital Eternities, Éternité numérique, qui est un projet financé par l'Agence nationale de la recherche en France depuis 2013. Donc on est une vingtaine de personnes à travailler sur ces nouveaux hommages aux défunts dans les réseaux sociaux numériques, mais aussi dans les médias traditionnels. Donc je vais vous présenter un petit peu ces problématiques et les premiers résultats d'une approche sémiologique de l'analyse des profils des usagers défunts et des publications en hommage à ces défunts donc qui sont produites par leurs proches sur Facebook. Donc le projet Éternité numérique porte sur ce phénomène qui est donc représenté, on va dire, depuis une dizaine d'années et dont on prévoit qu'il ne puisse que augmenter, c'est les hommages mémoriaux donc sur les profils d'usagers de Facebook et des réseaux sociaux numériques qui sont décédés. En effet, c'est un marché aussi qui est assez prisé aujourd'hui par les entreprises, puisque d'ici 20 ou 30 années, avec les courbes de décès vont se croiser, en fait, le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux numériques augmentant et effectivement ces utilisateurs décédants, eh bien, on va être confronté de plus en plus cette question des profils des usagers qui persistent après leur décès. Et ce qu'on en fait, enfin, ce que les proches souhaitent en faire et en quoi, et en fait, nous, ce qui nous a intéressé, enfin, ce qui m'a intéressé en particulier lorsque j'ai conçu ce projet, c'était de savoir en quoi est-ce que ça nous parlait finalement de notre image de nous-mêmes, de notre identité en tant que elle puisse faire l'objet justement d'une remémoration après le décès. Qu'est-ce que, en fait, ces pratiques numériques vont changer à notre expérience de l'identité, même après la mort. Et d'autre part, en fait, quelle était la signification qui est accordée par les proches à ces profils utilisateurs d'amis, de la famille, qui sont décédés. Est-ce que ces pages Facebook qui ont un grand rôle du vivant des usagers, dans la mesure où ils servent aussi d'espace de dialogue au sein des communautés d'amis, fréquentées aussi en face à face, eh bien, dans quelle mesure est-ce que ces identités numériques vont peut-être changer de signification ou être réinvesties après le décès? En tout cas, on a pris... Alors, oui, et également, alors du point de vue du projet, il y a une approche de l'analyse des représentations du genre et à partir de ces corpus. Moi, je ne suis pas spécialiste du genre, mais en tout cas, on approche. Enfin, je l'évoque parce qu'effectivement, on aborde aussi cet aspect des genres, mais c'est pas ma problématique. Donc, en tout cas, on parle couramment du déni de la mort qui caractérisait les représentations de la mort au XXe siècle. Donc, au XXe siècle, la mort aurait été, serait tabou. Comme le montrent les chercheurs comme Louis-Vincent Thomas ou encore Edgar Morin, Philippe Ariès, eh bien, on assiste donc au XXe siècle à la fois à un fort déni de la mort et qui va entrer en tension avec justement les pratiques à partir des années 60 de américaines, de présentation du défunt dans les chambres funéraires, les funeral rooms. Maybe. Yes. Et donc cette tradition va arriver en France aussi peut-être, enfin en tout cas par les médias, et ça va changer un petit peu les rites funéraires, mais en même temps on va avoir toujours cette tension assez forte, en tout cas en Europe, en France, entre la volonté de ne pas accorder son statut de cadavre au défunt et de camoufler, en fait, de cacher le cadavre, et puis ces usages émergents de présentation du cadavre, mais magnifier en fait un cadavre presque vivant, qui est celui des défunts, ayant fait l'objet d'une thanatopraxie notamment, enfin justement cet usage de transformer le mort en mort presque vivant. Alors pour synthétiser dans des grandes lignes. Et ce que des travaux montrent, donc pour ce qui concerne l'étude de la mort en ligne, c'est que, en effet, les réseaux sociaux numériques vont s'inscrire dans ce mouvement en finalement faisant ressurgir à travers les traces qu'il a laissées de son vivant des représentations du mort. En fait, on est face à des pages Facebook, notamment la page de profil du défunt, qui va rester après le décès, et parfois qui présente même des traces en fait très récentes du décès, voire même parfois dans les corpus qu'on étudie. En fait, on a la dernière publication du défunt après son décès, parfois des publications géolocalisées à l'endroit d'un accident, par exemple juste avant d'avoir un accident de voiture, parce que les personnes utilisent, et c'est très cruel, leur téléphone en conduisant et peuvent avoir des accidents. Donc en fait, on a la trace en fait, de publications qui peuvent avoir même été la cause du décès, mais ça, on n'en sait rien. Enfin, c'est assez terrible, justement. En tout cas, c'est très saisissant pour les usagers proches qui en témoignent d'observer, après le décès d'une personne, en fait, des traces qu'il a laissées de son vivant, parfois très récentes. Et ce qui arrive très souvent aussi, ce qui a été très étudié aussi, tant aux États-Unis que dans les pays du nord de l'Europe ou en France aussi, c'est que les personnes, enfin, ce que les médias montre, c'est que les personnes sont aussi traumatisées du fait parfois d'apprendre le décès de quelqu'un par sa page Facebook. Et parfois même, en fait, j'ai lu des articles où des mères apprennent le décès de leur enfant par Facebook, du fait qu'en fait, les amis de leurs enfants sont avec eux et utilisent beaucoup Facebook pour s'informer. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on peut apprendre le décès également. Parfois, la famille fait le choix aussi d'annoncer le décès sur la page Facebook. En tout cas, il y a tout un usage autour de ces pages Facebook qui est développé et est très, très différent par les proches de différentes manières. Donc, et ce que les travaux ont montré, alors notamment les travaux de Brubaker Evertesi, Brubaker et Ice aussi à partir de 2008, ils ont commencé à travailler sur MySpace. Aujourd'hui, c'est Facebook qui a pris le relais. Ce qu'ils montrent, c'est que les vivants s'expriment parlent aux défunts, en fait, comme s'ils étaient encore vivants. C'est-à-dire, ils vont utiliser souvent la deuxième personne. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a observé dans nos entretiens, bien aussi nos corpus. On va avoir, les usagers, certains usagers, ceux qui notamment ont beaucoup communiqué avec le défunt de son vivant via Facebook, vont avoir la sensation que même après son décès, eh bien, le défunt va retourner, son esprit va retourner sur la page Facebook pour lire les publications et les commentaires laissés par les proches, à tel point que parfois même les proches culpabilisent de ne pas aller souvent sur la page Facebook d'un proche décédé, comme si c'était en fait un devoir de mémoire qu'il devait s'imposer pour respecter le souvenir du défunt. Donc on est dans un contexte, on voit bien en fait que la page Facebook après le décès d'un usager n'est pas systématiquement abandonnée, mais au contraire peut faire l'objet en fait d'un fort investissement sémiotique, symbolique, en devenant un espace de dialogue aussi intérieur, voire parfois explicite avec le défunt. Donc moi c'est vraiment ces aspects-là qui m'ont intéressée, c'est de savoir en fait quelle portée symbolique acquiert, en fait, de quelle portée symbolique est investie la page Facebook du défunt après son décès. Alors, dans le projet, du point de vue en fait, de tous mes collaborateurs, on adopte plusieurs approches. Donc déjà, on a une équipe qui a conduit une enquête quantitative sur les usages mémoriaux du web, donc une enquête en ligne. Actuellement, on a environ 700 réponses. Donc 700 répondants, les résultats sont en cours de traitement. Enfin, on vient juste de clore cette enquête. Donc ça, c'est Hélène Bourdelois, qui est à l'université Paris 13, qui s'occupe de cette enquête quantitative. Également, elle conduit des entretiens qualitatifs sur les usages mémoriaux du web. Donc ça, c'est vraiment une approche sociologique traditionnelle par entretien. Mais voilà, et on l'a complété également par une approche en analyse de la circulation de l'annonce de la mort des célébrités dans les médias traditionnels. C'est-à-dire, en fait, par exemple, de prendre une célébrité et de voir comment est-ce que son décès est annoncé dans les médias et si c'est repris dans Twitter, par exemple. Donc, on va avoir des études sur l'hommage aux célébrités dans Twitter. Moi, par exemple, j'analysais le décès de Mohamed Ali, qui est donc un boxeur. Comment est-ce que ça a été annoncé et relayé sur Twitter Le troisième approche, donc celle dans laquelle je m'inscris de façon privilégiée, donc c'est une analyse sémiotique des pages de profil Facebook des défunts donc créés de leur vivant, mais aussi des pages mémoriales créées après le décès des usagers. Et donc là, on va entrer dans une partie du projet. Donc ça, c'était les deux premières années. On va entrer dans une partie du projet d'ici quelques mois où on va revisiter en fait ces données de façon transversale, notamment pour faire émerger des problématiques relatives au genre. Donc ça, c'est pour vous situer un petit peu ce contexte interdisciplinaire, donc de collaboration entre des sociologues, des sociologues des médias. Également, on a un ingénieur informaticien. En sémiopragmatique, on a également des collaborateurs en philosophie sur ces aspects, sur la question de la trace notamment. Donc pour plus particulièrement aborder les questions qui me préoccupent dans une approche, ainsi que Virginie Julliard, ma collègue, dans une approche sémiologique. Donc notre question, c'est de savoir comment est-ce que l'identité numérique du défunt continue de se construire après la mort. Alors évidemment, si l'identité numérique du défunt, c'est-à-dire sa page de profil, continue d'être alimentée, ce n'est pas du fait de l'usager qui est défunt. Donc ça présente effectivement un changement par rapport à l'identité numérique du défunt. En quoi est-ce que cette identité est performée ? Eh bien, tout simplement parce que ce sont les proches qui vont publier donc des messages, comme je vous le disais, sur la page Facebook du défunt, et qui vont alimenter finalement son identité numérique, donnant l'impression en fait que le mur du défunt est vivant finalement, tout comme il l'était de son vivant, justement parce qu'en fait il y a toujours une actualité, donc à tel point que parfois même le mur du défunt devient même un espace d'annonce dans des milieux artistiques par exemple, de nouveaux événements, ou encore ça peut être l'occasion de se remémorer le défunt, enfin justement c'est tout ce qu'on qu'on va interroger dans ces pages. Donc, nous, on procède de plusieurs façons pour analyser ces usages. Donc, déjà, il y a une approche qualitative qui est très importante, puisqu'on est face à des usages émergents. Donc, on a constitué un corpus d'une cinquantaine, 46 pages de personnes décédées qu'elles ont créées de leur vivant. Donc ceci en fait en passant par en fait des articles de presse qui font état en fait des faits divers sur la mort d'utilisateurs qu'on a supposé de Facebook. En fait, on allait chercher donc déjà des articles annonçant la mort de personnes, et ensuite on allait rechercher dans Facebook pour savoir si elles avaient une page et si elles avaient une page publique surtout. Parce que et en fait on a sélectionné des pages de cette manière-là pour savoir également si certaines étaient supprimées après le décès ou d'autres particulièrement investies. On n'a pas voulu analyser les pages de nos proches défunts parce que c'était trop difficile. Donc premier corpus des pages de profil créées du vivant des défunts, également d'analyser des pages communautés, c'est-à-dire des pages mémoriales créées après le décès des usagers. Donc par exemple, vous en avez un exemple ici, celle-ci je peux la montrer parce que c'est une page publique en hommage à Nelson Mandela, donc personnage public. On voit ici, c'est une page groupe, community, qui a été détournée en page mémoriale. Hein. On voit ici le Rest in Peace Nelson Mandela, RIP Nelson Mandela, qui est souvent utilisé aussi en français pour montrer que c'est une page mémoriale. Également, on a des pages intitulées Hommage à nom du défunt ou bien Repose en paix, nom du défunt. Et donc ça, c'est typiquement une page mémoriale, donc il y a un détournement de page communauté, puisque normalement, on n'a pas le droit de faire ça dans Facebook, mais Facebook laisse faire. Et en fait, on va voir que ces différents supports vont parler différemment du défunt. Mais ça, je reviendrai par la suite sur ces aspects-là. Donc, on va sur ces pages-là, on va faire une analyse sémiopragmatique, c'est-à-dire vraiment en regardant qui publie sur le défunt. On va lire toutes les publications publiques, et interroger en fait comment est-ce qu'on réfère au défunt, comment est-ce que en quoi consistent ces publications. Ça rentre aussi dans le cadre d'une analyse sémiologique parce qu'on va observer aussi, au-delà des pages de défunts, en fait, et justement peut-être parfois en évoquant notre expérience personnelle, en fait, comment est-ce qu'on parle de la mort autour de nous lorsqu'il arrive justement qu'il y ait un décès, ou aussi sur d'autres terrains. Par exemple, moi j'ai un terrain de militants Touareg, en fait, qui sont inscrits dans un militantisme pour l'indépendance du Nord Mali. En fait, évidemment. Ces usagers-là vont être particulièrement concernés par des décès fréquents parce qu'il y a énormément de meurtres, d'assassinats chez les Touaregs, même depuis en fait les accords d'Alger qui ont signé les accords de paix qui ont signé l'arrêt officiel du conflit. En tout cas, il y a toujours des assassinats qui sont perpétués. Et à ce moment-là, on va vraiment voir comment est-ce que les annonces du défunt vont circuler des pages des vivants en fait qui font part en fait de leur chagrin d'avoir perdu un proche, et ensuite être publiés sur la page du défunt. En fait, il y a vraiment une circulation de sa propre page où on fait part de son chagrin suite au décès d'un proche, et ensuite certains usagers vont parfois publier sur la page du défunt, mais il y a vraiment un processus de circulation de cette information et de la représentation du mort. Enfin, on va avoir une approche, donc ça c'était l'approche sémiologique, dans le cadre d'une observation ouverte, discrète, c'est-à-dire en fait il s'agit d'une observation qui n'est pas vraiment participante, mais étant donné que pour observer des usages sur Facebook, on est nécessairement obligé de s'inscrire, eh bien, on va être amis avec des personnes, donc par exemple sur le terrain Touareg, et tout en leur disant qu'on travaille sur les hommages aux défunts, mais c'est une observation qui va se dérouler sur plusieurs années. Donc là, ça fait 2 ans que j'observe ce terrain, par exemple. À un moment, les gens vont oublier qu'on étudie ça, mais tout en le sachant. Et en fait, autant au début, on avait beaucoup d'hommages aux défunts, par exemple, sur ce terrain Touareg. En fait, je pense qu'ils, sachant qu'on travaillait là-dessus, ils publiaient beaucoup d'hommages aux défunts. Et maintenant, ils en publient peut-être un petit peu plus normalement. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui, C'est ça, c'est une observation ouverte discrète, c'est-à-dire à la fois on sait que ça peut susciter des publications en hommage à des défunts, le fait qu'on travaille dessus, aux yeux des personnes qu'on observe, en fait, ils sentent que ça a une importance sociale, et en même temps on va essayer de se faire oublier pour justement retrouver en fait un cadre d'observation naturelle. Enfin, c'est toute une problématique. Des approches quali-quanti, en fait, qui sont très à la mode en sémiotique. Enfin, moi aussi, j'en ai développé pour l'approche de l'identité numérique, du vivant des personnes. Hein. Mais ça, c'est quelque chose dans le cadre des hommages mémoriaux qu'on va faire plutôt par la suite, parce qu'en fait, c'est très différent de publier sur le profil d'un vivant, de publier en fait sur le profil d'un défunt. En fait, ça n'a pas du tout, on ne publie pas de la même manière, comme je vous le montrerai. Donc, ça nécessite de recadrer en fait les approches justement quantifiées de cette identité numérique post-mortem. Et enfin, on a des entretiens ouverts avec les usagers. Donc, ça pour vous. Montrer notre méthodologie. Alors, quelques résultats. Hier, sur, par exemple, le corpus dont je vous parlais de pages de profil créées du vivant des défunts, on voit qu'avec notre méthode, ça permet d'observer que sur 46 pages de profil de défunts dont on sait que leur mort a été annoncée dans la presse, on sait qu'ils ont un profil sur Facebook, eh bien, ce qu'on observe, c'est que seulement 23 présentent des publications publiques après le décès. Donc, en réalité, c'est la moitié à peu près. C'est relativement peu par rapport à l'échantillon dont on sait que, par exemple, certaines pages de profil ont pu être déjà supprimées avant qu'on les observe, qu'on les identifie, etc. Beaucoup de pages ne présentent pas de publications publiques après le décès. Voir des profils sont supprimés. 4 profils ont été supprimés dans l'espace des 6 mois après l'extraction. Donc on l'a interprété comme en fait des cas tout simplement où la page de profil Facebook n'est pas jugée comme un espace digne de présenter des publications post-mortem, ou simplement des pages de profil qui ne sont pas jugées signifiantes par rapport à la mémoire des usagers défunts. Donc, mais peut-être en fait qu'une certaine partie d'entre elles ont des publications privées, justement, qui sont uniquement destinées aux amis. Ça, c'est fort possible, mais ça, on peut pas le savoir avec notre méthode. Ça devrait être développé ultérieurement. Et on voit que seulement une page est transformée en page de commémoration, donc utilisant cette fonctionnalité proposée par Facebook finalement geler la page. Pour qu'elle reste une page souvenir d'eux sur laquelle on ne peut plus publier, en fait. Ça, c'est, en fait, là. Donc, on voit que cette fonction officielle proposée par Facebook est en réalité relativement peu utilisée, hein, une seule page sur 46. Et encore, il s'agit de morts ayant fait l'objet d'une médiatisation. Donc, c'est des morts qui seraient particulièrement concernées par cette page de commémoration, en tout cas officielle. En revanche, ce qu'on va observer, c'est en particulier pour ces morts qui sont médiatisées, eh bien, on va avoir beaucoup de pages créées post-mortem sur d'autres espaces que ces profils créés du vivant des usagers. Mais je pense que je suis à la fin de mes 20 minutes. 8 minutes, d'accord, c'est 30 minutes. Merci, donc c'est parfait. On voit que finalement, ces pages Facebook de défunts qui ont fait l'objet en fait d'une médiatisation de la mort. Donc, on montre que, enfin, ce qu'on voit, c'est que déjà toutes les pages ne font pas l'objet de publication. Mais ce qu'ont montré les entretiens, en fait, pour mieux comprendre ce phénomène, c'est qu'en fait, même lorsque on ne voit pas de publication, en fait, parfois il a bel et bien eu une éditorialisation, même si elle n'est pas visible. En effet, d'une part déjà, la page de profil Facebook du défunt doit faire l'objet d'une décision sémiotique comme page signifiante pour être représentative. Du défunt. C'est-à-dire que, comme je le disais, lorsque la page n'est, par exemple, que très peu utilisée par le vivant par le défunt, pardon, de son vivant, eh bien, elle n'est pas investie de signification. Elle n'était pas importante probablement pour le défunt de son vivant. Donc, a fortiori, après sa mort, on la juge pas comme importante, à tel point que même parfois, en fait, on la laisse sur Facebook sans s'en occuper. Hein, ce qui est plutôt surprenant parce qu'effectivement, ces pages, elles peuvent être la cible de publications, de spam, etc. Donc, le fait de les laisser, c'est vraiment considérer que ça n'a pas d'importance. Enfin, on peut l'interpréter comme ça. Donc déjà, tout le monde n'utilise pas la page Facebook du défunt pour en fait, lui rendre hommage. Il faut que cette page fasse l'objet d'une décision sémiotique. Ensuite, ce qu'on a observé, c'est que parfois, l'absence de pratique d'écriture observable peut correspondre aussi à une consultation. Enfin, ça ne veut pas dire que les usagers ne consultent pas la page de profil, mais tout simplement qu'ils la consultent silencieusement, sans agir sur elle. Parce qu'en fait, le fait d'apposer sa trace sur la page de profil d'un défunt, c'est quelque chose qui est ressenti comme très signifiant par la plupart des usagers. Donc, ils peuvent aller sur la page, mais simplement consulter, penser au défunt en scrollant, par exemple, sa timeline. Donc, ils vont consulter finalement les traces laissées de son vivant. Et ce qu'on observe parfois, parce que, en fait, on peut observer par exemple des commentaires apposés à des publications qui ont été publiées peut-être 3 ans auparavant, avant la mort du défunt. En fait, des personnes vont commenter en disant « Ah, ce que j'aimerais que tu sois encore là », par exemple. Et donc là, c'est des publications, enfin des commentaires qui ont été publiés après le décès de l'utilisateur, mais qui commentent des publications bien antérieures, soit publiées par le défunt, soit publiées par des amis. Donc en fait, même s'il n'y a pas de pratique d'écriture, il peut y avoir quand même un dialogue avec le défunt. Et on peut le savoir aussi donc, par les entretiens, parce que les personnes nous en parlent, mais aussi parce que parfois, c'est des publications très anciennes qui sont consultées, donc qui montrent qu'il y a vraiment une pratique de consultation, de scroll sur la page pour aller s'imprégner finalement du souvenir du mort à partir de ces publications. Donc il y a ce geste d'apposer... Qu'on a appelé un petit peu de façon théâtrale à poser le stigmate de la mort sur la page de profil du défunt, c'est à poser la première trace qui va signifier justement la mort du défunt. Et c'est quelque chose qui est ressenti comme très engageant par les proches, parce que finalement, cette apposition de la première publication après le décès du défunt, même si c'est juste pour dire RIP, Amine, par exemple, pour les usagers Touareg musulmans, on va lire aussi Repose en paix pour les utilisateurs français, donc suite à n'importe quelle publication, eh bien, ce geste en fait, va transformer la page d'un vivant en profil de défunt, en fait, en stèle. C'est en fait, vraiment un geste qui peut être très... minimal, hein, RIP, Amine, repose en paix, mais qui va avoir un très fort pouvoir symbolique parce que finalement, il va prendre en charge aussi l'annonce de la mort à tous ceux qui ne le savent pas et qui, parce que la page de Facebook est encore là, en fait, ne s'imaginent pas que cette personne est décédée. Donc, c'est vraiment une annonce souvent qui est indirecte de la mort à travers ces petits signes dont les autres usagers vont, qui vont investir pour en fait comprendre simplement que l'usager est défunt. Ensuite, on a observé des pratiques, ce qu'on appelait de profilopraxie, en référence justement à ces pratiques de thanatopraxie, qui ont commencé à modifier un peu le paradigme de représentation de la mort dans les années 60, à partir des rites américains. En fait, cette profilopraxie, elle consiste justement, on a une écriture par suppression. Donc, qui n'est pas visible, justement. Nous, on va l'interpréter comme une page qui n'a pas eu de publication après le décès, tout simplement parce qu'on ne relève aucun signe produit après le décès. Mais en revanche, c'est par les entretiens avec les utilisateurs, on a su qu'en fait, des communautés, parfois, pouvaient être créées, s'agréger autour de la page de Facebook du défunt, enfin sur la page de, parfois même de, bien, par ce qu'on sait en fait que la personne, enfin que différentes personnes se connaissaient le défunt, en tout cas, et qui vont mettre en place justement des formes de d'éditorialisation de la page de profil du défunt. Donc ils vont par exemple supprimer des informations jugées non conformes à l'image qu'ils souhaitent conserver du défunt. Alors nous, on a cité un exemple, ces caractéristiques, c'est par exemple un utilisateur qui faisait un geste vulgaire en fait sur une page de sa photo, ou alors un utilisateur qui embrassait sa copine en fait de façon un peu impudique. Eh bien, la communauté de ses amis après son décès a souhaité non pas supprimer les publications, mais couper les parties jugées non adéquates. Donc couper la main coupable, voire modifier ou mettre un flou sur une zone d'une photographie, c'est-à-dire en fait, ils investissent vraiment le document d'une une portée symbolique importante. Ils ne souhaitent pas le supprimer parce que c'est un souvenir du défunt. Mais par contre, cette image est jugée non conforme à ce qu'on juge, à l'image qu'on juge décente en fait d'un défunt qui va. Et donc, on va supprimer ces éléments. Donc là, il y a vraiment tout un processus qui est très intéressant à étudier, mais qui procède plutôt par suppression et modification. Et on ne peut pas, du coup, en produire une approche quantifiée ou systématique. C'est vraiment par comparaison de différentes versions et aussi par des entretiens d'explicitation en fait, d'usagers qui vont eux-mêmes nous expliquer comment est-ce qu'ils ont modifié telle page de leur ami défunt. Et d'ailleurs, souvent, ils ne veulent pas forcément montrer cette page à nous en tant que chercheurs parce qu'en fait, c'est une page qui a trop de signification pour eux et nous, on ne veut pas les forcer à le faire. Donc, c'est très délicat tout ça à observer. En tout cas, la suppression est bien un acte signifiant d'entretien de la page du défunt. Et enfin, ce qu'on a observé, c'est en fait à propos des pages créées postérieurement, donc ex nihilo, après le décès du défunt, donc comme cette page que je vous ai montrée en hommage à Nelson Mandela. Donc par exemple, pour notre corpus, si je puis dire, de mort par accident, on va avoir parfois plusieurs pages qui sont créées en mémoire à un même défunt. Alors pourquoi plusieurs pages ? Pourquoi est-ce que des utilisateurs en fait ne s'agrègent pas sur une même page pour rendre hommage à un même défunt ? Eh bien, en fait, on a observé que parfois ces différentes pages correspondent à des querelles autour de la négociation du mort pour soi. En fait, les usagers, en créant une page, souvent en fait c'est soit un ami qui va pouvoir créer une page mémoriale ou soit un fan lorsqu'il s'agit d'une célébrité. Parfois, la mère du défunt va créer une page. Et en fait, ce qu'on a souvent observé, c'est le conflit entre la page créée par un parent ou par la famille et la page créée par la petite amie, par exemple, ou les amis. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir le même souvenir du mort qui avait lui-même une présentation de soi différente dans ses différents contextes de son vivant. Et donc, ils ne vont pas insister ni tenir aux mêmes images qui conservent sa mémoire. Par exemple, partager certains morceaux de musique. Enfin, il ne se présentait pas, enfin, il ne disait pas les mêmes choses de son vivant dans ces différents contextes de sa vie. Et donc, les vivants retiennent en fait une image différente et parfois s'acharnent autour de cette mémoire pour justement même interdire à certaines personnes de publier sur l'autre page mémoriale qui est créé par les ennemis. Et on va voir vraiment des controverses parfois très très fortes, et voire même lorsque ce n'est pas la famille qui crée une page mémoriale, en fait la famille, enfin ces personnes en tout cas vont témoigner qu'elles sont harcelées en inbox sur la légitimité finalement qu'elles se sont données elles-mêmes de produire une page commémorative en honneur de ce défunt. Donc on a tout un processus finalement de fabrication médiatique, numérique du défunt, enfin de la représentation du défunt, tout un processus vraiment de production de sa mémoire qui va s'organiser après son décès. Et c'est vraiment toujours en fait une subjectivation de la mémoire du défunt qui est privilégiée. On va s'approprier en fait la mémoire du défunt, et on va avoir des querelles pour l'emprise sur la mémoire de ce défunt. Et donc ça, c'est les premières, enfin les conclusions les plus saillantes. Également, autre conclusion qu'on a trouvée intéressante, c'était de montrer comment la page du mort pouvait devenir un lieu de socialisation post-mortem entre des personnes qui étaient amies du défunt et qui ne se connaissaient pas avant la mort. Ça concerne surtout, c'est plus sociologique, ça concerne surtout les défunts qui avaient la vingtaine, en fait, des défunts assez jeunes, donc ils sont bien représentés dans notre corpus, justement, de mort par accident. Et en fait, ils se rencontrent via la page Facebook du défunt. Alors, souvent, en fait, c'est des messages postés en privé. C'est-à-dire uniquement visible par les amis, c'est-à-dire auxquels nous, on n'a pas accès, mais dont les usagers nous témoignent lorsqu'on les interroge, eh bien, ils se rencontrent de cette manière-là et vont, et ça, plusieurs groupes nous en ont parlé, organiser des soirées à la mémoire du défunt, en faisant comme si, pendant cette soirée, le défunt était présent. C'est-à-dire, ils vont parler de lui comme s'il était présent parmi les usagers. Et encore une fois, on nous l'a témoigné, mais dans des contextes sociaux très différents. Enfin, il y a plusieurs groupes d'usagers qui nous ont témoigné de l'existence de cette soirée. Et en fait, de nouvelles sociabilités vont se créer, mais qui sont aussi tyranniques, parce qu'en fait, on va revoir aussi cette querelle autour de la mémoire du mort, parce qu'en fait, elles vont exclure certains amis du vivant, de l'usager, en disant « Non, toi, tu ne viens pas à cette soirée parce que tu n'as pas la bonne image du défunt. Quand tu parles du défunt, ce n'est pas en fait des choses que nous, on considère comme étant conforme à la mémoire que nous conservons de lui. » Et en fait, même dans les sociabilités, finalement, face à face, on voit ressurgir les mêmes logiques que celles qu'on observe dans ces pages commémoratives créées post-mortem. En fait, ce conflit pour avoir le pouvoir sur l'image du défunt. Donc, on a vraiment face à ces enjeux là qui peuvent être vraiment très excluant et parfois peser lourd aussi dans le deuil de certains proches qui sont rejetés par les proches d'un défunt, en particulier ses amis ou la famille, voilà, parce qu'il n'a pas la bonne image, il ne conserve pas la bonne image du défunt. Donc, peut-être en ouverture de cette approche sémiotique, donc comme je vous disais, on a plusieurs terrains d'observation de ces usages-là, parce qu'en fait, on se rend compte à quel point déjà parler de la mort, c'est très culturel. En fait, ce qu'on observe, ce que toute la recherche montre, c'est qu'effectivement, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en fait, on n'a pas le même rapport au deuil, à la mémoire. En fait, ce rapport au deuil, il se modifie au cours du temps. En fait, il n'est pas le même pour une société, en fait, à 30 ans d'intervalle. Il est en constante évolution et a fortiori lorsqu'il concerne en fait son expression sur Internet, puisqu'en fait il implique aussi le rapport à l'image du défunt. Et c'est quelque chose justement qu'on a comparé sur les différents terrains, donc en France, en Chine et dans la population touareg. Alors en France, nous on est vraiment une culture en fait qui est façonnée de plusieurs cultures, donc c'est très complexe en fait d'utiliser, d'étudier ces représentations, parce qu'en fait certains sont culture musulmane par exemple, d'autres agnostiques, et on sait très bien agnostique, en fait on est toujours imprégné par une culture ou par une autre. Et en fait c'est très difficile en fait de faire parler les Français sur les dimensions religieuses ou de croyances tout simplement relatives à ça, parce qu'on a l'habitude de ne pas en parler, en fait d'évacuer cette question de notre discours. Donc on a un tabou en fait des superstitions et des religions, enfin qui fait que en particulier dans un contexte scientifique, en fait on a beaucoup de mal à en parler avec ces usagers là par contre en Chine et sur le terrain du militantisme touareg indépendantiste, eh bien les usagers en parlent relativement facilement parce que c'est assez clair pour eux. Et donc déjà on a observé en fait une différence en fait de par exemple d'acceptation de mettre l'image du défunt en ligne. Les usagers Touareg, et je vais m'arrêter là-dessus, et chinois par exemple refusent de mettre toute trace de iconographique en fait en ligne parce qu'en fait ça porte malheur et voire même ça peut faire porter une malédiction sur le défunt en l'empêchant de trouver le sommeil. Ça, pas mal d'usagers nous ont fait part de cette croyance-là. Et, mais cependant, en fait, les militants Touareg, justement, vont contourner en fait, cette appréhension culturelle parce qu'en fait, ils sont justement dans un cadre de militants. Et donc, rendre hommage aussi aux victimes, aux rebelles de leur cause, c'est aussi une manière de militer. Mais c'est encore tout un autre sujet, en tout cas. Mais voilà, globalement, on peut dire, pour résumer, que finalement étudier ces profils de défunts, enfin d'identité numérique post-mortem, c'est vraiment étudier comment est-ce que on conçoit finalement les vivants se réapproprient le souvenir du défunt après son décès, mais aussi comment est-ce que on va envisager soi-même son existence aujourd'hui. Est-ce que cette existence, enfin, on est plus face en fait à un déni de la mort qui passe par le social. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on observe, c'est une minoration de l'importance du corps biologique et qui fait écho aussi à toute une pensée transhumaniste pour privilégier en fait une conception sociale de l'existence et aussi justement par laquelle on peut envisager que finalement, on atteint une certaine forme d'éternité, d'où on retombe sur cette notion d'éternité numérique, qui serait une forme d'éternité, mais qui est allouée par la mémoire sociale et les pratiques sociales des proches qui vont entretenir, par des publications fréquentes, la mémoire du sujet. Défunt. Voilà. Je vous remercie.
Merci. En vous écoutant, et surtout en écoutant cette réponse à Jim sur le fait que, au fond, il y a une continuité entre le passé et le présent, émerge quelque chose qui me paraît intéressant. Je voulais vous soumettre cette hypothèse. Et si l'idée que dans la modernité, il y a eu un refoulement de la mort était fausse, puisque on sait très bien, c'est un peu un lieu commun, la modernité refoule, funeral house, on refuse tout cela. Mais d'une part, par exemple, le XXe siècle a été le siècle d'être-temps de Heidegger, par exemple, de l'être pour la mort, donc une présence un fait obsessionnel de la mort. Et le fait que, dès qu'on a les moyens techniques, on implémente une socialisation autour de la mort, semble suggérer que, comme je disais, ce refoulement moderne de la mort, c'est peut-être une mythologie.
Oui, tout à fait. En fait, c'est... cette idée justement du paradigme du déni de la mort en fait est fortement infirmée par certains collègues, notamment sociologues ou psychologues, notamment donc collabore avec Martin Julie Coste, qui est psychologue qui a beaucoup travaillé sur la mort chez les jeunes. Et c'est vraiment quelque chose qu'il souligne dans tous ses travaux. Enfin, avant, il ne travaillait pas sur le numérique. Donc, même avant de travailler sur le numérique, c'est un fait vraiment différent, distinct encore du numérique. Disons que les jeunes n'ont plus la même représentation du défunt. En fait, ils vont vivre avec des objets ou des incarnations du défunt, enfin, sans que ce soit forcément problématique avec leur quotidien. C'est-à-dire que dans le paradigme du déni de la mort, si on n'accepte pas le décès du défunt, c'est-à-dire que finalement on dit il est mort et on fait avec les vivants, eh bien finalement on fait pas son deuil et on reste torturé. Enfin, je schématise, je sais pas. Voilà. Mais effectivement, selon ce nouveau paradigme, en fait, on serait face à une acceptation finalement de d'incarner, enfin de de la présence du mort parmi les vivants. En fait, c'est vraiment ça qui se formalise aussi à travers la présence des profils des défunts dans les réseaux sociaux numériques de Facebook. C'est-à-dire que certaines personnes sont quand même dans un rapport conflictuel quand même avec cette apparition du profil, parce que certaines personnes ne supportent pas de voir l'image du défunt parmi leurs amis vivants. Mais pour d'autres, c'est quelque chose d'important. Et c'est ceux qui vont conserver, par exemple, le défunt dans ses amis, parce que beaucoup suppriment tout simplement le défunt de leurs amis après son décès pour ne plus avoir les notifications Facebook ou l'image qui ressurgit. Mais d'autres vont, au contraire, le consulter et y revenir avec complaisance. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on est face à quelque chose de l'ordre de la nostalgie. Je dis ça, je viens de terminer un article, justement, où j'essaye de réutiliser les notions de studium et de punctum de Barthes, en fait, dans Notes sur la photographie, qui désigne en fait le zèle avec lequel justement Barthes, qui est en contexte du deuil de sa mère dans Notes sur la photographie, en fait va chercher en fait une image de la vérité de sa mère dans la photographie. Et en fait le punctum, c'est ces éléments en fait qui vont le poindre et qui vont le surprendre et raviver en fait finalement le souvenir de la défunte. Alors, j'interprète en fait le système de Barthes, hein. Mais en tout cas, je trouve que dans le numérique, on a vraiment aussi donc soit ce refus, ce traumatisme, donc cette vision justement conforme au défi de la mort du XXe siècle. Hein, on est dans un paradigme où on a besoin de laisser le mort derrière soi. Mais beaucoup de chercheurs aujourd'hui, et notamment aussi, je pensais à Vinciane Després, en fait, qui est une philosophe et psychologue suisse, qui a écrit un ouvrage récemment en 2015. Qui montre comment est-ce qu'on garde toujours un petit peu les morts en soi, comme des petites voix. Et en fait, justement, donc on va utiliser les supports numériques pour aller justement se livrer finalement à cette nostalgie de la personne, et qui justement, je trouve ça intéressant de le penser en termes de nostalgie, parce que c'est pas justement un souvenir pathologique dont on souffrirait, où on se dirait oh là là, c'est uniquement le punctum par exemple, le mort qui me surprend, qui me cause de la douleur. Non, je vais aller chercher ce sentiment et je vais finalement utiliser la page Facebook pour me draper finalement dans un souvenir du défunt, mais qui est quelque chose qui est important pour moi aussi. Voilà. Et ça, des usagers qui même le formulent, enfin j'ai trouvé des citations d'usagers en fait qui formulent vraiment ce rapport finalement apaisé à l'image du défunt dans Facebook. Mais on est vraiment dans un cadre d'usage émergent, donc qui se caractérise par en fait des usages qui sont très différents suivant les personnes. Alors c'est suivant les générations, suivant les cultures, mais on a quand même ces deux réactions globalement qui effectivement confirment ce que vous dites. Ouais.
Vous avez parlé un peu au début, enfin une idée qu'on a normalement de la mort. Je pense au final de Barry Lyndon de Kubrick, qu'on est tout égal devant la mort. Tandis que là, il semble que le genre fait une différence même après la mort. Et je voulais savoir un peu plus sur qu'est-ce que c'est le rôle du genre dans cette existence numérique post-mortem.
Alors, je vais juste vous parler des travaux en fait de mes collègues, puisque moi, n'étant pas spécialiste du genre, en fait, c'est juste par coalescence parce que je les connais. Effectivement, ce qu'elles en disent, donc Virginie Julliard et Hélène Bourdelois également. Donc, en fait, ce qu'on a vu, enfin moi, ce que j'ai vu aussi dans la recherche sur les usages, enfin les rites funéraires en ligne, c'est qu'en fait, souvent les femmes prennent le rôle de s'occuper du mort, par exemple, s'occuper du cadavre. En fait, souvent, c'est une femme qui va s'occuper traditionnellement d'habiller le cadavre, etc. Souvent, une femme qui est extérieure à la famille, en fait, traditionnellement. Et ensuite, en tout cas, il y a un rapport genré, en fait, aux différentes tâches allouées à l'organisation de la sociabilité autour du mort traditionnellement. Et aussi les femmes qui vont prendre la parole. Alors ça, c'est des travaux de Laurence Hardy, il me semble, qui ont traité justement du genre et du deuil. Et en ligne, en fait, ce que mes collègues ont commencé à observer pour le moment, mais comme je disais, c'est un travail qu'on va conduire aussi beaucoup cette année, c'est qu'on retrouve vraiment cette répartition des rôles sociaux autour de la gestion de la page Facebook. Et notamment, c'est souvent des femmes qui créent les pages d'hommage aux défunts. Donc qui finalement prennent en charge effectivement la formulation de la mémoire du défunt, et qui correspond aussi, si on file la métaphore en fait de la page de profil Facebook, comme finalement une forme de second soi, un second corps en fait, pourvu aussi de stigmates de la mort. Enfin, justement, c'est des métaphores un peu bizarres qu'on essaye de travailler. En tout cas, c'est vrai qu'on retrouve en fait ces femmes qui s'organisent autour du corps du défunt. Et c'est tout ce que je pourrais vous dire pour l'instant. C'est vraiment ma collègue Virginie Julliard qui traite de ces aspects-là. Mais c'est un rapport, il y a un rapport genré à la mort et qui se reproduit finalement, qui se reformule sur Internet.
Oui, non, c'est très utile parce que moi, j'avais mal compris. Je pensais que c'était le genre du défunt. Tandis que là, c'est plutôt, de ce que vous m'avez dit, alors, c'est plutôt le genre de gens qui participent à cette sorte de funérailles éternelles, funérailles continues.
Nous, on étudie en fait les représentations des défunts à partir forcément des productions des vivants. C'est pour ça qu'on va surtout traiter de cet aspect-là. Mais en fait, c'est sûr que le fait que le défunt soit un homme ou une femme compte beaucoup là-dedans, parce que par exemple, vu que c'est le conjoint souvent qui s'alloue, enfin qui se donne le droit de publier une page après décès de quelqu'un, en fait, forcément, statistiquement, ce sont plutôt les hommes. Et c'est ce que mes collègues aussi retrouvent sur les célébrités. En fait, beaucoup plus d'hommes en fait, font des pages d'hommage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des femmes qui les créent. Et en fait, lorsqu'il y a une femme... Alors, c'est juste des hypothèses, hein, mais ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Enfin, voilà, c'est ça. C'est du fait, en fait, que ce soit les femmes qui seraient gardiennes de la mémoire. Enfin, ça favoriserait les hommes. La mémoire des hommes. Voilà.
Other questions?
Ok. J'ai une question. Sur la question de méthode, alors, j'ai l'impression que c'est très intéressant tout ça pour moi. C'était très bien fait. Mais j'ai une question sur rituel. Alors, est-ce que c'est vraiment rituel électronique ou est-ce que cette catégorie, ce n'est pas vraiment...
Non, alors, en effet, je vous remercie de reprendre ce mot que je prononce. Voilà. Mais en effet, des rituels, c'est difficile à formuler parce qu'effectivement, il y a... En fait, si ce n'est que nous, on va considérer qu'il y a un rituel dans la mesure où il y a une systématisation en fait, de certaines pratiques. Et en fait, on est face à une ritualisation en cours de formation. Notamment, il y a quand même des usages qui sont de plus en plus récurrents, moi, que j'observe depuis 3 ans que j'observe ce terrain. C'est notamment ce que je vous disais, en fait, pour les titres de pages de commémoration, en fait, qui sont spontanés, c'est hommage à, repose en paix, un tel, etc. Donc, qui commencent à se normer. Aussi, les manières d'annoncer le décès sur la page Facebook, en fait, on va avoir des formules qui sont assez récurrentes. En fait, dans toute une partie du travail, moi, j'essaye de trouver des phases en fait dans le traitement médiatique du deuil sur Internet. Donc, on a commencé à distinguer justement l'annonce de la mort, ensuite l'annonce des funérailles, et ensuite quels sont les moments où on publie particulièrement le mort. Alors, au début, ce qu'on avait observé, c'est par exemple, on a une énonciation assez impersonnelle, et en fait, les souvenirs vont venir au bout d'un certain temps, l'expression du souvenir sur les pages. Ça vient au bout de plusieurs semaines. Et donc, en fait, c'est comme si... en fait, ces usages sont de plus en plus... On les observe de plus en plus fréquemment. Donc, il y a une ritualisation qui s'opère, mais c'est effectivement pas une ritualisation qui est actée, c'est vraiment la ritualisation bricolée, en fait, qui est très caractéristique de tout ce qu'on observe sur Internet en général. Hein. C'est toujours en cours... Enfin, c'est pas toujours en cours de façonnage, mais moi, quand j'ai commencé à étudier l'identité numérique, en fait, il y a une quinzaine d'années, c'est vrai que j'ai vraiment vu l'émergence de certains usages, certaines façons de présenter qui se sont systématisées ensuite avec le web social, etc. On a vraiment ces usages qui se mettent en place dans la durée, en fait, effectivement, dans la répétition. Et c'est tout à fait la même chose pour les hommages aux défunts.
Merci.
J'ai une petite suite à propos de ça. C'est le lien entre le rituel traditionnel du funérail. Et si on peut voir quand même certaines pratiques comme un funérail numérique qui se poursuit pour beaucoup de temps, parce que surtout quand vous disiez les gens qui parlent du défunt, les gens qui le connaissaient mais de façon différente, ils ne se connaissaient pas entre eux, c'est quelque chose qui se passe normalement au funérail. On se connaît là parce qu'on connaissait le défunt. Donc si on peut voir au moins une certaine partie de ces pratiques numériques comme des versions numériques du rituel traditionnel des funérailles.
Alors ça, c'est un terrain qui est... d'une part, on a invité en fait des professionnels, justement des pompes funèbres ou bien aussi des personnes qui organisent les funérailles à l'église. On les a entendus dans des conférences. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils observent eux-mêmes en fait la numérisation de leur métier. C'est-à-dire, par exemple, la personne qui organise les funérailles à l'église, on va lui demander de plus en plus de passer des MP3 en fait de morceaux que le vivant écoutait ou alors qui sont chers pour les proches qui restent. Pendant la messe, on va avoir aussi des faire-part envoyés par mail, enfin tout une intégration, ce qu'ils disent en fait du numérique vraiment dans leur profession. Alors, je disais, voilà, ça d'une part, effectivement, il y a des professionnels, enfin, tous les professionnels, en fait, témoignent de ça. Il y a aussi ces nouveaux services qui proposent de numériser ses propres données après le décès. En fait, plein de professionnels aussi qui essaient de se positionner sur ce marché-là pour, en fait, inviter des usagers à dépenser plus d'argent, en fait, pour la mémoire de leurs données numériques avant leur décès. Enfin, deuxième point, et surtout sur le terrain chinois, c'est assez intéressant en fait, qui est beaucoup plus décomplexé par rapport au rapport pécunier à la mort. Ce qu'on a observé, c'est que, déjà en Chine, en fait, il y a énormément d'agences privées qui vont proposer des services vraiment à forte valeur ajoutée autour du défunt. Par exemple, étant donné qu'il y a des problèmes d'espace pour l'inhumation du défunt, en fait, ils vont créer des cimetières qui sont comme des lieux de week-end, en fait, où ils proposent en fait, le défunt a vraiment un espace dans un beau jardin où en fait on peut passer des week-ends en famille, parce qu'en plus en Chine ils ont parfois 10 000 km à franchir pour se recueillir sur la tombe du défunt, et donc souvent ils peuvent saisir l'occasion pour se recueillir dans des cimetières. Et donc je dis ça parce que en fait certaines de ces agences, on a vu, proposent en fait des numérisations en 3D des cimetières où on peut déposer des fleurs par exemple sur la tombe du défunt. Mais en fait elles ne sont pas déposées en vrai sur les cimetières qui existent, hein, mais en tout cas on a toute une numérisation en fait des professions autour du funéraire, et vraiment ce phénomène là est très 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 présent et vraiment et fortement pris en charge aussi par tous toutes ces agences en fait qui proposent des services autour du décès.
Merci. On peut terminer ici, on aura une pause d'une demi-heure à peu près, donc on recommence à 5h moins 10. Et, bon, merci beaucoup Fanny George.